Louis-Philippe Hébert a fondé plusieurs entreprises, dont une maison spécialisée dans la conception et l'édition de logiciels, ainsi qu'une maison d'édition et de distribution de livres. Il se consacre depuis 7 ans à l'écriture d'une dizaine d'ouvrages, dont le recueil poétique « Le livre des plages », publié en 2007, dont il a lu d'ailleurs hier des extraits. Grand pays, ce recueil a obtenu le Grand Prix québécois du Festival international de la poésie. Il a publié un roman en 2007, « La séparation », deux nouveaux recueils de poèmes, le « Correspondance de guerre » en 2008 et « La bibliothèque de Sodome » également l'année dernière. Il continue d'être très productif puisqu'en 2009 paraîtra le recueil poétique « La chute de l'ange » et le recueil de nouvelles « Les ponts de glace sont toujours fragiles ». Il annonce déjà 3 autres recueils de poésie. Rien ne peut plus l'arrêter. Belvédère Hôtel, Manuel de cirque et Sommeil, soleil noir, ainsi qu'un roman, Comment je suis devenu surhomme.
Ah ben voilà.
La clé était là. Alors, parallèlement, Louis-Philippe Hébert a vu à la création et voit toujours à la gestion de la galerie L'Univers et compagnie. Alors, Louis-Philippe Hébert.
C'est une note de service qui s'intitule « Mes mots », qui s'adresse à tous les membres du RQIE 2009 et qui a pour objet « Adresse à une assemblée de magiciens ». Je n'ai aucune notion du temps. J'ai même de la difficulté à croire les montres que je porte au poignet. Je dis les montres parce que j'en ai porté plus d'une et que toutes m'ont fait le même effet. Je pourrais ajouter les horloges qu'on aperçoit dans les lieux publics, les cadrans numériques qui défilent dans le métro et qui vous prédisent un petit avenir entre deux stations n'y échappe pas non plus. Je les regarde tous, et je me méfie. Je devine qu'ils sont détraqués. J'étais victime à un très jeune âge d'un horrible accident. Depuis lors, le temps n'existe plus pour moi. Il y a eu, disons, une contraction. Bien que, je le sais, on ne puisse pas dire cela. On devrait dire plutôt l'inverse. Le temps est une dilution, un étirement, une élongation. Je ne peux pas dire le mot, le temps. Une bille noire, absolument dense. On dirait que la bille va éternuer. Je dis ça pour rire, évidemment. Je ne sais plus parler. Je vis en dehors du temps. Ce qui s'est déroulé il y a un demi-siècle m'étonne plus que ce qui va se passer pendant que je lirai ce texte aujourd'hui. Pourtant, je l'écris aujourd'hui. Ce soir, oui. Maintenant, c'est-à-dire à l'instant présent. Et j'ai déjà en mémoire de vous l'avoir lu, ce texte, de vous le lire. Maintenant. Vous êtes là, devant moi, vous écoutez, et mes doigts frappent sur le clavier. Vous comprenez à quel point cet exercice peut entraîner la confusion. Mettez-vous à ma place et essayez de vous souvenir, comme moi, de ce qui vient de se passer, de ce qui va se passer. J'ai l'impression d'être un magicien qui vous dit « Suivez ma main » et pendant que vous regardez ailleurs, je fais disparaître un objet, un mouchoir de poche. Là, vous le voyez, là, vous ne le voyez plus. Je n'ai même pas changé le temps du verbe. On ne voit plus rien. On prétend que je suis un magicien bavard. Quelques journalistes, au cours des ans, des amateurs d'émotions fortes, se sont installés dans la salle. Le mot « bavard » vient d'eux. Bien sûr, les critiques ne croient pas ce qu'ils ont entendu. C'est un exercice de mémoire. Et ils décortiquent méthodiquement mon travail. Oui, mon travail, mes exercices d'étirement. Parce que finalement, sans de grands efforts de ma part, le public aurait à peine le temps de s'asseoir qu'il serait temps pour lui de partir. On ne fait pas de spectacle en dehors du temps. Voyons. J'ai la sensation de ne pas être très clair, même carrément un peu obscur. Il faut ici accepter un minimum d'obscurité. Sinon, le temps n'est qu'une question de mémoire, et la mémoire est une sorte d'enregistrement méthodique et douloureux de tout ce qui se passe, comme si tout ce qui était du passé était disparu à jamais. Eh bien, non. Le mouchoir est toujours dans ma poche. On ne fait pas vraiment disparaître les objets, les choses, les sujets. J'ai l'impression que je me perds ici et que je vous perds un peu. Les critiques, je vous ai parlé de ces journalistes, souvenez-vous-en, prétendent que mon approche, tout empreinte de sincérité, n'est qu'une autre manière de travestir la réalité, de dissimuler quelques petites opérations pour mieux provoquer l'étonnement. Je ne suis plus en âge de m'indigner, même si je me morfonds quand j'entends de telles insanités. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi les magiciens portaient des hautes formes, des habits de soirée, des gants blancs et une petite veste rayée. Mais c'est par dignité, voyons. Voilà. Nous ne sommes pas des amuseurs publics. Nous sommes ici pour établir des preuves. Je pourrais porter un sarrau comme un laborantin ou comme le pharmacien du coin. Mon travail est un travail scientifique. Je n'en dis pas plus. Ah, les mots. Ah, ici. Prenons le mot ici. S'il pouvait y avoir un langage formé d'un seul mot, je voudrais que ce soit ici. J'aime ce mot. Il est simple. Trois lettres. Difficile de faire plus court, sauf pour et. J'aime aussi et. Mais je ne veux pas m'égarer. Revenons ici à ici. Un mot qui se lit dans un sens comme dans l'autre. On pourrait même en faire une croix avec le C en plein milieu, à l'intersection. Il pourrait se lire de haut en bas et de bas en haut, de gauche à droite, de droite à gauche. Un mot palindrome. Incidemment, c'est ce à quoi j'ai pensé quand j'ai pris pour nom de scène Léon Noël. Noël, Léon. Je me suis dit que les gens vont comprendre un jour que le temps peut se lire à l'envers, qu'on peut se souvenir de ce qui va se passer. Et là, d'une manière absurde, si absurde que je pourrais pleurer en l'écrivant, le public réclame le numéro gagnant à la loterie ou le prix des actions de Nortel dans 6 mois. Et le jour et l'heure de votre mort, vous y avez pensé? Il est plus apprécié de prédire le jour et l'heure de la naissance. Est-ce que j'ai dit prédire ici? Avant de me produire sur scène, avant de coucher sur papier ces longs monologues obsessifs, je me suis demandé si on n'écrivait jamais autre chose que sa propre vie. Je dois avouer que, bien avant d'en avoir fait un métier, un art, bien avant d'être devenue la vedette que j'étais et que je demeure, il m'est arrivé à plus d'une reprise, assez souvent pour repousser toute velléité d'y voir une coïncidence, de vivre d'avance. Je m'explique. De vivre en spectacle ce que je la vivre dans le temps que certains appellent réel. C'est un vulgaire terme d'informatique qui est passé déjà à l'oubli. Le temps réel. Comme si j'écrivais ma vie à partir d'une mémoire du futur. Pour le magicien du temps, l'écriture est une fenêtre ouverte sur le passé comme sur l'avenir. Cette image n'est pas neuve. Je parle de la fenêtre. On oublie cependant ce qu'elle implique. Une vision du dehors, bien sûr, mais aussi une vision du dedans. Pas de fenêtre sans dehors, pas de fenêtre sans dedans. Je ne définirai tout de même pas le mot « fenêtre » ici. Ah, ici, ce mot parfait, ce mot de trois lettres, suffit. J'ai déjà dit, cette fenêtre peut appartenir à un logement du rez-de-chaussée ou à un appartement du 16e étage. Il y a une différence. Le magicien est assis sur le bord de la fenêtre, à califourchon, entre les deux vides. Vient le temps comme le vent. Peut-être que le pire, c'est qu'il se souvient d'être tombé et que la chute a été mortelle. Toute chute est mortelle pour un magicien. Ne me regardez pas comme ça. Bon. Comment puis-je me souvenir de ce qui ne s'est pas passé et de ce qui ne se passera peut-être même pas? Comme si le spectacle qui a cours présentement sous vos yeux avait été annulé. On voit bien que c'est impossible. S'il avait été annulé, vous ne seriez pas ici. Ici. Ce mot qui revient toujours, obsédant, obscène et séduisant. Tout ce que je le fais de mémoire. Je n'y arrive que parce que je l'ai déjà fait. J'ai vu le temps. J'ai fermé mes yeux et j'ai vu le temps. Maintenant, avec moi, concentrez-vous, fermez vos yeux, vous êtes ici. Ah, vous n'avez pas senti ce vertige, cet épouvantable vertige d'être en un seul moment tout ce que vous avez été et tout ce que vous allez être. Une bille noire, très dense, au centre de l'univers. Une bille noire qui est l'univers. Et vous ouvrez les yeux et le temps se dilue à nouveau. Vous essayez de vous souvenir si vous avez mis de l'argent dans le parcomètre, si la gardienne d'enfants vous avait demandé de revenir avant 11h ou avant minuit, si vous n'avez pas laissé les clés dans les poches de votre manteau qui est au vestiaire et qui peut-être était au vestiaire au moment où vous avez ouvert les yeux. Ma vie n'est que cela. Les tours que j'ai appris, cette façon de faire apparaître un événement qui ne s'est jamais produit, ni dans le passé, ni dans le futur, et pourtant qui existe, ces tours, je les connais de mémoire. Je les ai appris par cœur, je les ai appris en rebâtissant le temps. Parce qu'il m'a bien fallu reconstruire ce qui a été détruit. Le cerveau humain est ainsi fait qu'il se crée de nouveaux ponts, qu'il prend des détours, use de stratagèmes pour continuer à fonctionner. Je suis devenu magicien comme d'autres deviennent plombiers. Parce qu'il y a aussi des plombiers du temps. On n'en parlera pas ici. Ici. Ah. Je ne suis pas exaspéré, bien qu'il y ait quelque chose d'exaspérant dans le temps. Sans doute la chose la plus exaspérante, c'est la mémoire. La mémoire est une fausseté. Comme l'effet de perspective que les peintres et les architectes savaient autrefois si habilement manipuler. La mémoire est un artifice créé pour contrebalancer le futur, pour en quelque sorte séparer l'inséparable, effectuer une section dans l'insécable. Ainsi, en entrant dans cette salle, vous aviez la conviction qu'on peut se souvenir d'événements qui ont eu lieu, mais jamais, au grand jamais, avez-vous pensé percevoir de la même manière des événements futurs. Maintenant, après avoir suivi ma main droite, alors que c'est la gauche qui agissait en sourdine, vous n'êtes plus tout à fait sûr. Il doit y avoir un truc, c'est ce que vous vous dites. Vous avez raison, il y a un truc. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Contrairement aux prestidigitateurs qui essaient de vous convaincre que la magie existe, moi, comme tous les magiciens du temps, je tente, avec l'énergie de désespoir, de vous rendre conscient que le temps n'existe pas. D'une certaine manière, vous ne vivez que de mémoire. Vous ne faites que ce que vous avez appris. Vous ne vivez que ce que vous avez vécu. Et le spectacle, ce spectacle-ci, vous l'avez déjà vu. Alors, je vois des gens qui se lèvent, j'en vois d'autres qui mettent sur leur tête un drôle de chapeau. J'en vois d'autres qui piochent sur leur téléphone cellulaire. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tout cela fait partie du spectacle. C'est dans le scénario. Certains viennent me voir à la fin du spectacle et ils me remettent leur montre comme on confie un bébé à une nourrice. Même des horloges. Je reçois en tout temps de l'année par la poste des agendas. Certains d'entre eux sont si désuets qu'ils peuvent à nouveau être utilisés parce que, comme vous le savez, le temps n'a pas beaucoup d'imagination. Il se répète, il bégaye. Par exemple, je vais maintenant entrer dans la confidence. Je sais qu'aujourd'hui, ici, exceptionnellement, je m'adresse à une salle de spécialistes, qu'il y a d'autres professionnels, des gens du métier, quoi, des gens qui exercent eux aussi devant le public, et d'autres gens que la magie du temps intéresse. Pourquoi? Comment? Ces questions ne se posent pas. Il n'y a pas vraiment de procédé, il n'y a pas vraiment de formule ni de formulaire. Par exemple, les montres que je porte au poignet se détraquent toutes, mais jamais d'une manière systématique, ce qui permettrait, évidemment, d'établir une mesure du temps, bien particulière, j'en conviens, mais une mesure tout de même, au début. Je veux dire, à l'âge où on apprend normalement à servir d'une montre, je trouvais la vie bien difficile. Si pénible que vous n'arriveriez pas à l'imaginer. J'étais même convaincu que jamais je ne me rendrais au-delà de l'adolescence. Cela avait atteint un tel point que lorsque ma montre indiquait l'heure, disons exacte, non, ne disons pas exacte, disons simplement juste. Donc, lorsque ma montre indiquait l'heure juste, de cette justice fondée sur la convention, puisque c'était l'heure que nous partagions tous dans le même fuseau horaire, je me méfiais. Je suspectais que ce fût le contraire, que tous les cadrans que j'apercevais ne soient que des aberrations et que moi seul, et non ma montre, ai raison. Ce sont les affres de l'adolescence. Pour des gens comme moi et pour bon nombre d'entre vous qui êtes venus ce soir ou cet après-midi à ce spectacle, ces moments sont infiniment pénibles. Ce n'est que lorsque nous découvrons que ce qui nous tue peut tout bonnement nous permettre de vivre, ce premier paradoxe assumé plutôt qu'éliminé, que nous sommes en mesure d'affronter les autres. Ce qui complique les choses, c'est que pour nous, membres de notre étrange et inavouable confrérie, le passé, le présent et le futur se confondent, parfois inopinément. Nous n'avons pas toujours l'énergie nécessaire pour les démêler, pour les dissoudre. Pourtant, cela demeure une question de survie. On ne peut pas vivre sans la moindre organisation. Et le temps, l'emploi du temps, est la première leçon que nos éducateurs nous enseignent. Ils ne pensent comme nos parents, avant qu'ils ne démissionnent, qu'à nous inculquer la notion du temps. Comme je vous l'ai confié au début, il m'a fallu très tôt vivre avec cette incongruité. J'y suis venu par accident, c'est vraiment le cas de le dire. Dans la salle, certains y seront venus aussi par accident, comme moi. D'autres auront été séduits par un spectacle de magie particulièrement réussi. Pour d'autres encore, ce sera une affaire de désœuvrement. En bas âge, confronté en un instant à un pouvoir aussi fantastique, dans le sens d'effrayant, c'est difficile à vivre. Vous ne pouvez pas imaginer les efforts qu'il m'a fallu consentir, la nature des efforts, je devrais dire dans mon cas, le caractère contre-nature des efforts consacrés à tenter en vain, de réorganiser le temps. Le temps m'arrivait par bloc, par magma informe, et j'attaquais le temps comme un sculpteur attaque la pierre, en arrache les morceaux pour trouver une forme à l'intérieur. C'était cela où, prenant le temps comme une bille noire, me laissait mourir. Si on peut mourir. Parce que c'est bien cela que nos maîtres nous laissent entrevoir. La mort n'est qu'une solidification, du temps. Il me fallait donc apprendre à diluer, considérer la vie comme un spectacle et chaque performance comme une œuvre. Cela apparaissait tout d'abord comme un sentiment, un état presque figé, dépourvu de mouvements véritables, dont je devais, comme à partir d'une photographie, détecter chaque élément et reconstituer le passé. il me fallait faire en sorte que mon état d'âme devienne un spectacle. Et pour que le spectacle ait lieu, il fallait que cela se développe dans le temps. Comme si à chaque élément de cette photographie, de cet instantané, je retrouvais ce qu'il avait été dans d'autres instantanés, dans d'autres photographies. Je devais retracer la provenance de tout ce qui fait partie du présent, du décor dans lequel nous sommes, même des personnages, et même aujourd'hui, ici, 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 de chaque individu présent dans la salle. Parce qu'il y a partout une mémoire, chaque objet, chaque feuille de chaque arbre, chaque personnage, chaque cellule vivante de chaque personnage ont une histoire. Je dois à chaque fois recréer leur mémoire que je suis seul, sans doute, à avoir perdue à cause de cet horrible accident dont, souvenez-vous, je vous ai parlé tantôt. Croyant que tous les magiciens fonctionnaient comme moi, j'en étais venu à penser que le rôle qui leur incombait était de fabriquer de la mémoire. Et comment nier qu'en montant son spectacle, chaque magicien démêle le temps, dilue cette bille noire comme une gélule dans l'eau et, de toute pièce, réussit à convaincre le spectateur, dans mon esprit aussi désemparé que peut l'être le magicien, qu'il y a vraiment un passé, qu'il y a vraiment un présent, et qu'il y a vraiment un avenir, même si le temps n'existe pas, et que ce n'est qu'ici, ici, ici, que ce n'est qu'une illusion. Merci.
Alors, merci Louis-Philippe Hébert pour ce spectacle de magie temporelle et cet ici vertigineux. Je vais donner la parole maintenant à Samira Negrouche, que je vous présente immédiatement, poète et écrivaine d'expression française. Samira Negrouche vit à Alger. Elle est médecin de formation. Elle est également très engagée au sein d'associations culturelles et littéraires. Elle est poète, auteure de plusieurs recueils, dont « À l'ombre de Grenade » en 2003, « Iridienne » en 2005 et « Cabinet secret ». Livre d'artiste avec Enan Burgos en 2007. Elle est traductrice de poésie arabe et a réalisé divers travaux interdisciplinaires avec le théâtre, la vidéo, la photo et les arts plastiques. Son prochain livre, Le dernier diabolo, sera publié en 2009 par les éditions Chèvrefeuille étoilée. Alors, Samira Negrouche.
Merci. Eh bien, bonjour. Alors, je dois avouer que cette rencontre autour de la mémoire m'a un peu bloqué le cerveau. Quand Louise Dupré m'a demandé de réfléchir autour de ce thème, je me suis rendu compte que j'étais comme un petit chien ou un petit chat égaré, appelé de toutes parts, et le bug a été provoqué. J'ai enfin réussi à écrire quelque chose, un texte qui s'appelle « Quelle mémoire autorisée ?» Et après l'avoir écrit, je me suis rendu compte que malgré tout, malgré le fait que j'ai été assaillie par divers sujets à discuter ou à réfléchir, il y a deux fils qui sont revenus, celui de ma grand-mère et celui d'un poète algérien qui s'appelle Jamal Amrani. Donc avant de vous lire ce texte, j'aimerais vous lire ces deux poèmes. Un premier qui s'appelle Jida, qui veut dire grand-mère ou mamie en kabyle. Juste une petite précision, vous entendrez le mot t'accepte, et t'accepte, c'est un barrage qui a été construit en bas de mon village, sur les terrains des gens de mon village. Donc les oliviers ont été noyés dans ce barrage. À Taverna Slavia, une ombre, le tramway qui glisse sur un plan imaginaire, et le ciel si gris, si bas, que les façades s'éloignent, et les civilisations, et les patrimoines. Juste ce ciel imposant, sur le dos, fier et droit. D'où vient cette femme qui chemine dans le sentier nu, qui chante silencieuse un opéra inconnu, qui accouche la montagne et revient à elle. Sur les berges du fleuve qui traverse Mozart, la brume m'a fait sentir le regard inquiet de Gida et de ces arbres noyés dans le t'accepte, perdue dans une filiation qui ne sait pas sa romance. Elle vient, cette femme, main croisée derrière le dos, visage dur et accueillant. Elle vient à Taverna Slavia, et le bol brûlant prend tout son sens. La brume redresse mon dos montagnard, j'ouvre mon corps à ce qui me rappelle le jazz des oliviers. Et puis, le second poème, qui est un hommage à Jamal Amrani, commence par une petite phrase de Pasolini dans son recueil Poesia in forma di rosa. Passif comme un oiseau qui voit tout dans son vol et garde dans son cœur, en son vol, dans le ciel, la conscience qui ne pardonne pas. Pour Jamal Amrani, mémoire de père. Une mémoire de père habite mes profondes solitudes. Celle de Rimbaud et de sa jambe pourrie et amputée à la conception. Des jambes et des caves pourries pour achever les poètes qui, comme l'âme de Jean Sénac, n'en finissent pas de me hanter. Il faudra faire avec cela, naître avec cela et le sperme déversé dans les ventres en toute hâte, rejeté dans le corps et dans l'ombre. Un genou doucement se pose au repli de la vie, puis la tête et le corps tout entier se dessinent en courbure imparfaite de cet homme léopard sur le départ de course et s'en va caresser l'horizon. C'est une âme errante à la recherche de la mémoire solitaire et oublieuse qui croit se laver sous les pluies d'orage et de sang. La mémoire de ton dos impuissant et arthrosique, dont les poids de plomb ne se sont jamais détachés. Et tu te courbes encore devant des godasses lourdes et noires. Tu te courbes devant tes jambes en culottes courtes qui fuient le maître furieux et violent. Encore tu te courbes devant le durdura de ta mère et tes larmes de deuil, celles qu'on cache derrière des vitres fermées et sales, des adieux qu'on ne veut pas faire, qu'on ne sait jamais faire, celles que tu continues d'arracher dans la généalogie de mes mots. Voilà, ce fut une introduction un peu longue et je m'excuse, je n'ai que des questions à partager avec vous. Je me suis agitée autour de ces questions. Et je commence par une petite phrase de Jamal Amrani. Il dit « J'habite une mémoire alourdie ». Quelle mémoire autorisée ? De toutes les mémoires qui défilent sous mes yeux, j'ai envie de retenir celle qui résonne comme la filiation. Celle qui oscille de façon obsédante entre parole et silence. Car elle vient à moi comme une évidence, cette généalogie enchevêtrée qui chemine sur le cou tatoué et redessine sans cesse l'appartenance à la terre, à l'olivier et à la langue. Peut-être ai-je cru un jour m'appuyer sur ces éléments évidences, croyant figer des racines stables, ou me reposer sur une identité tantôt reniée, parfois sublimée, jamais mise en doute. C'est pourtant dans une chronologie ascendante que se situe ma mémoire, en constant mouvement de construction et de déconstruction, dirais-je de contorsion de souvenirs tel qu'il a été absorbé individuellement et tel qu'il m'est parvenu collectivement. Il me paraît pourtant difficile de croire que nous sommes libres de nos souvenirs ou des témoignages que nous croyons véhiculer. Nous ne naissons ni nus, ni avec une mémoire vierge prête à s'élancer dans un océan de découvertes. Il me semble que cette mémoire surchargée, qui se situe entre identité et tradition, accepte difficilement de libérer l'individu qui les porte. C'est une poudrière à déminer avec précaution. Nous avançons parfois, malgré nous, sur les traces d'un mensonge sincère ou sur celle d'une épopée qui nous a tenus un instant en haleine dans la vie. Ce qui me semble intéressant, c'est d'imaginer que nous traversons une verticalité qui dépasse le temps et qui questionne l'être comme un musée en constant mouvement, en interaction avec son désir croissant de sens et de liberté. Si je reviens un instant au lieu où mémoire et écriture se rencontrent, je me retrouve forcément sur le lieu de l'oralité, celle qui provoque et met en défi la moindre des interprétations. Celle-ci ne s'arrête pas au conte et à la poésie Elle est une pensée à part entière, une sorte de mémoire confiée au vent et à la destinée. L'oralité, celle de ma grand-mère et de ses ancêtres, se situe pourtant dans une fascination maternelle de l'objet écrit et autorise parfois certains passages. Les livres d'histoire ne disent rien, des espoirs chevillés au bateau en partance. Ils ne parlent pas des cafés ou des yeux qui se croisent avant qu'une bombe explose. Ils ne disent rien des fantômes qui habitent le poseur de bombes, ni de ses rêves d'exister. Les histoires que les peuples véhiculent sont des mémoires traumatiques qui ne disent rien, ou presque. Le chemin impossible vers la mémoire, c'est celui-là même qui m'habite comme l'écho de ma propre trahison, de la corruption de ma pensée. Je suis dans une généalogie opaque de la mémoire qui occulte zones sensibles et linge sale à laver un siècle prochain. L'oralité me donne une langue que les livres d'histoire m'interdisent. Elle est arrivée à moi comme une fable insouciante. Elle a sans doute perdu l'histoire en cours de route, mais c'est elle-même qui a protégé les interstices du possible, les chemins qui montent et qui descendent sans se soucier des certitudes. C'est dans cette insouciance apparente que j'interroge chaque lieu, chaque instant voilé. Jusqu'où la mémoire traumatique nous autorise-t-elle à focaliser notre cécité ? J'entends autour de moi s'élancer des tentatives de dialogue autour des origines de la religion ou de la langue, des questionnements sur les crimes des uns, les erreurs des autres, la trahison ou le déni. Ces questionnements osent à peine se murmurer. J'habite cette mémoire traumatique qui tente de fuir la tâche aveugle, la regarder de loin, vivre à sa périphérie, sortir de son magma touffu. Pourtant, je suis au-dedans. Dans une langue minorée, une écriture coupable des doutes traîtres, je suis là où je suis étrange, presque étrangère, car dans la mémoire du silence, celle qui ne se dit pas, celle qui ne veut pas renier berbérité, judéité et appartenance poétique, je ne veux pas choisir la mémoire, mais la laisser remonter à la surface avec ses épines et ses maladresses. Je ne crois pas que l'écriture soit un verre poli. Elle est pour moi un réceptacle indéfini et imprévisible. Elle est là où l'on hésite à frapper à la porte, là où l'image arrête d'être un culte, là où la mémoire ne répond à aucune construction préétablie. Je vis la mémoire et l'écriture dans un même processus de déshabillage, une sorte de quête d'un instant de silence ou de souffle. Oui, habiter enfin, un seul instant, face à moi-même.
Samira, pour ce bel éloge d'une écriture qui serait une lutte contre la généalogie opaque de la mémoire. Je reprends cette formule que je trouve belle et lourde à assumer en même temps. Pour terminer, ce sera la dernière intervention donc, de cette rencontre, Rodney Saint-Éloi, qui est né à Cavaillon, au sud de Tahiti, et il vit à Montréal depuis 2001. Où il partage son temps entre l'écriture, l'édition, les tournées d'écriture et de conférences, tournées de lecture et de conférences. Il a commencé à écrire dès l'âge de 13 ans. Il a publié une dizaine de recueils de poèmes et des essais sur la littérature et la peinture. Certains de ses ouvrages sont traduits en anglais, en espagnol, en italien et en portugais. Son œuvre est une lente traversée des villes, des fleuves et des visages. Il a publié, entre autres ouvrages, « J'avais une ville d'eau, de terre et d'arc-en-ciel heureux », J'ai un arbre dans ma pirogue. Il est fondateur et éditeur de la maison d'édition montréalaise, maintenant bien connue et très estimée, Mémoire d'Encrier. Alors, Rodney Saint-Éloi.
Merci. D'abord, Miko. J'ai une mémoire trouée. Enfin, je me rappelle avoir longtemps suivi la marche des fourmis folles, curieux de savoir ce que cachait le trépillement. C'était des fourmis rouges, dotées d'yeux et de mandibules, capables de sécréter du poison et d'attaquer quiconque se trouvait sur leur chemin. Je garde le souvenir cuisant de ma première rencontre avec les fourmis. je voulais ordonnancer leur course, donner un sens à cet itinéraire précis, minutieux, que je finis par développer une passion pour les fourmis folles. Je suivais des yeux leur armée vertigineuse, leur démarche trépidante, et le soleil traversait leur quartier. C'est aux fourmis que je pense aujourd'hui, 6 avril, 17h30, quand l'idée d'une quelconque mémoire m'interpelle. Les fourmis folles ont-elles une mémoire? Et pourquoi cette image fixe? Est-ce l'enfance qui surgit dans ce jeu brutal de fourmis folles où l'on revenait le soir, la peau hachée par ses insectes aux dents longues? Est-ce l'absence de toute mémoire, l'amnésie qui projette mon vécu dans cette colonie grouillante et indomptée? Je ne m'en rappelle pas. Je suis dans ce temps de l'enfance, malgré moi. Je voulais écrire mémoire et pouvoir opter, comme bon me semble, pour une quelconque mémoire, comme une mémoire pour grandir, pour devenir adulte, qui me permettrait d'assumer ce mot en moi et pour moi. Je me vois pourtant possédé par un flux d'images, éclats, sensations, impressions, odeurs, épreuves, esquisses. La mémoire serait, semble-t-il, modelée par hier. Et le temps de la mémoire serait toujours un temps que l'on n'a jamais pris le temps de choisir. Le temps des fourmis folles, le temps des cerfs-volants, le temps de la dictature, le temps des feuilles mortes, le temps de la mer bleue, le temps de l'esclavage et de la traversée. La mémoire fait toute seule sa route. Elle nous rattrape souvent à contre-courant. J'ai une mémoire trouée. Je dis mémoire et mon imagination vagabonde ça et là. Une image, cette fois heureuse, me tient la main comme un enfant souriant. Le cerf-volant, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est au premier jour de Pâques que les couleurs des cerfs-volants percent le ciel, comme si des milliers de petits arcs-en-ciel s'y étaient donné rendez-vous. Les enfants qui n'avaient pas de cerfs-volants n'étaient pas dignes d'intérêt. C'était la plus merveilleuse chose que l'on pouvait s'offrir, le cerf-volant de son choix planant sur les collines. Souvent de forme hexagonale, avec une longue queue et en prime un rasoir, pour couper les autres cerfs-volants, pour partir en guerre. Il s'agissait de coloniser l'espace avec ses couleurs, marquer le territoire et exprimer la puissance de ses rêves de cerfs-volants. Les cerfs-volants grondaient et montaient, s'élançaient jusqu'à la limite du paquet de fils. Les plus malins d'entre nous s'arrangeaient pour se mettre très tôt à l'ombre sous un chêne, un manguier ou sous n'importe quel arbre, de manière à se protéger quand le soleil tapait trop fort sur les crânes. Et à ce moment, on se dit que c'est à peine si les plus justes survivront. Vroom, 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 c'est le moment pour les moins exercés de plier bagages et de laisser à d'autres leur cerf-volant, ou tout bonnement de le ramener à terre. Quel échec! Nous, on jure d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire au crépuscule, à l'heure des braves, pour tenir en échec la nuit, notre manque de pain et de liberté. À Kaboul ou à Port-au-Prince, les cerfs-volants ont l'amitié du ciel, et l'enfance est peuplée de ses rêves d'envol, jaune, vert, rouge. Libre, le cerf-volant est l'élégance de l'enfance. Libre, liberté. J'écris ces mots et j'éprouve une infinie jouissance. J'écris ces mots et je me sens si proche de moi-même. Les mots libres, liberté, font appel à une mémoire escamotée, une mémoire plutôt politique. Comment ne pas faire abus de ce mot qui n'existait pas chez nous? Adolescent sous la dictature, le mot liberté n'existait pas. Si le mot existait, c'était un mot officiel, très loin de la chose, un mot dit sans conviction. Le drapeau national était entre autres représenté par un palmier surmonté du bonnet phrygien. La liberté était donc une fable imagée que brandissait le drapeau de la République. Comme le mot était politique, il était interdit. on était enfermé dans le cercle vertigineux de la politique. Et puisque tout était et où pouvait devenir politique, les murs nous étouffaient. Et les lieux pour déverser cette mémoire asphyxiée étaient des lieux fermés, comme les toilettes publiques, où l'on s'enfermait pour éclater en graffiti de toute proportion nos justes colères. Liberté était un mot interdit, comme d'autres mots si beaux. Révolution, justice, espoir, démocratie, jardin, étoile. Les mots n'étaient pas les seuls à ne pouvoir courir les rues de Port-au-Prince. Les couleurs n'étaient pas non plus admises. On interdisait formellement le rouge, souvent le petit livre rouge. Donc, rouge et livre avaient trop la résonance du sang et de la passion. Ils avaient un pouvoir étrange, dit-on, même sur les oiseaux qui se cachaient, apeurés qu'ils étaient certaines nuits par la clameur des mitrailles. Dire aujourd'hui le mot liberté libère le corps. Dire aujourd'hui le mot livre ou le mot rouge avec la foi de l'éclaireur, le mot révolution prouve que quelque part, je porte en moi la mémoire belle de ces mots qui refusent de se soumettre au dictat des despotes. Dire aujourd'hui mémoire est un geste de réconciliation de moi-même avec mon être le plus secret. Me réapproprier moi et mes fantômes, moi et mes cages, moi et mes cicatrices, moi et mes traversées, pour pouvoir enfin sortir de moi-même, m'affranchir de mes démons et lâcher en moi l'homme et toutes les possibilités, tous les cadastres et tous les demains. L'hiver. Si je suis devenu avec mon vécu montréalais une maison habitée par l'hiver, ai-je pourtant la mémoire de l'hiver? Cartographie du silence qui en moi fait sa route tous les matins. Saint-Laurent est mon nouveau pacte de vie, ma légitimité et mes serments de citoyen. Et là aussi naît une autre mémoire, une mémoire rapaillée, travaillée par l'érable et la neige, une mémoire du présent. Voici ces vers que j'ai écrits un soir de février dans mes efforts de nommer la ville, de l'habiter. Saint-Laurent, la ruche, l'usine, geste reconquis pour tromper la distance, la ville fugace aux mille et un visages. Nous marchons vers la confusion des soleils. Comment tronquer les lieux, les couleurs, la chaleur, les horizons, les flots, la flore et la faune contre un espace nouveau à habiter? Comment bâtir une nouvelle naissance? Comment fabrique-t-on une nouvelle mémoire? Comment devient-on cet être autre, ce passant hybride avec des histoires, des langues et des gestes à contre-courant? Est-ce en regardant le fleuve aller et revenir? Est-ce en se confiant à Saint-Laurent dans une prière matinale? Une question. Y a-t-il un saint? Y a-t-il un saint pour les émigrés? Quelle promesse au bout du chemin? Nu dans ces villes et largué entre ces paysages, pour taire la fureur de ces soirs d'hiver, je garde au fond de moi comme un secret l'étonnement doux de Nelly Gant. Ah, comme la neige a neigé, ma vie est un jardin de givre. Une mémoire pour l'exil dérobé. L'émigré a dans sa tête un bazar nommé Avenir. Il refonde son territoire à partir de ses fleuves perdus. Sa chambre devient un condensé d'objets vagues, d'effluves, de fleurs. Il y a une mémoire pour l'exil, une mémoire plutôt rebelle au temps et au présent, et dont la seule forme est l'indétermination, la négation du présent, les poches grevées de dettes et de rêves. Cette mémoire inassignable, elle est acerbe. Elle se fait au passif, impossible à constituer, route empêchée, dessin inachevé, perspective flottante comme le cerf-volant. Écrivant le mot exil, deux créateurs s'arrêtent à portée de mes pensées. J'ai au fond de moi une mémoire de ces exils-là. D'abord, René Philoctète. Poète, il avait la certitude qu'une île se déplace absolument. L'exil lui a prouvé le contraire. Immigré à Montréal en 1966, il est retourné dans son pays 6 mois après. Il avait suivi ses amis du mouvement Haïti littéraire. Anthony Phelps, Serge Le Gagneur, Villard Denis, Davertige, Roland Morisseau. Philoctète n'acceptait jamais de vivre loin de sa terre. Il écrivait au cours de son séjour enneigé ces îles qui marchent. C'était à sa manière un hymne à la patrie, un cahier de retour au pays natal, pour refuser le nouveau paysage, pour se fixer dans le temps infini du passé, pour ne pas trahir. Il écrivait ses poèmes d'exil, enfin, pour gommer l'exil. Il refusait cette mémoire de l'oubli et son destin d'exilé. Il disait à la fin, « Le soleil que j'ai bu est froid comme la mort. » Ensuite, je pense au peintre Luckner Lazare, qui a vécu plus de 20 ans à New York. Il s'est arrangé pour faire passer le temps en vivant avec un bananier dans sa chambre. À force d'astuces, il a réussi à tromper la vigilance des douaniers, traînant d'un aéroport à l'autre son bananier. Folklore dirait le plus circonspect parmi nous. Mais pour Lazare, c'était la seule et unique chose qui lui suffisait pour vivre. Cette plante est flanquée qui nourrit le village entier avec son régime de fuie. Et en mourant, elle donne vie à de jeunes plants. Il y avait dans le geste du bananier la certitude d'une passation. Pour Lazare, la vie sans ce vert tendre n'avait pas d'éclat. Il lui fallait, comme un principe vital, se réveiller le matin en présence de cette couleur verte qui, par une certaine complicité, s'est accrochée à l'aube de chacune de ses peintures. Ni vivre, ni peindre sans ce vert, sans cette plante qui est l'affirmation de son destin et de son humanité. Lazare est mort à Jacmel, en Haïti, avec le bleu de la mer, au milieu d'une bananeraie, et la sobriété évocatrice de la musique de Paul Simon comme un grand apaisement. Je dis exil, territoire contrarié, une mémoire pour l'exil, faite de télescopage, de souvenirs, de futur, de confusion, de manque et d'abandon. Vivre en mode contumace, refaire la route en tâtonnant, repartir à zéro, brouillard, labyrinthe, chez moi aujourd'hui, question à laquelle je dois faire face. Quand je dis chez moi, je veux dire d'abord la maison où je dépose mon corps, mes débris, mes odeurs, mes soifs, mes faims et aussi mes amours. Et moi, c'est le territoire que j'essaie d'habiter, que j'essaie d'apprivoiser dès la naissance. Chez moi, en vérité, c'est désormais un appartement sur la rue Chabot à Montréal, une petite rue avec des paysages changeants et quelques arbres dont j'ignore le nom. Et pendant 8 mois de l'année, cette température indomptée qu'éclaire le sourire des amis et le silence ordonné des souvenirs. Dans cette mémoire de l'oubli persistent des images d'Épinal, ces paradis terrestres qui peuplent le musée imaginaire et qui portent une nouvelle vision de l'espace, ces mers loquaces et ces oiseaux tout couleurs qui sont plantés dans ma chambre comme autant de raisons d'être là où je suis. Je me déclare ainsi partout souverain. Je me déclare ainsi absolu à tous les vents. Je suis la tempête et l'ensemencement. Je suis les digues qui appellent les forêts. Je suis les volcans, les lacs et les mers. Je suis l'oiseau et l'offrande de l'hiver aux enfants. Je porte en moi les arcs-en-ciel et les failles de la terre. Je me déclare amant de la voracité des fleuves. Je me déclare présent dans les registres de toute ville, à la rencontre des cœurs et des destins d'hommes, de femmes. Une mémoire pour l'exil, une mémoire pour cautériser la blessure, pour garder la lumière qui aide à avancer, la silhouette d'une grand-mère qui vivait avec son cercueil au-dessus du lit et qui appelait de tous ses voeux la mort en chantant dans sa langue créole avec ses mots tambourinés, l'appel, la fête dans le ciel, la novala, quand l'appel se fera au ciel, nous y serons. Grande Tida avait une mémoire pour la mort. Elle vivait à 2 mètres de son caveau, caveau qu'elle avait soigneusement fait construire auprès de son jardin, choisissant la couleur de chaque pierre, l'épaisseur du marbre, la face ouverte au soleil, le dos à la case et les fleurs préférées, le lilas mauve et le muguet. Le caveau était rénové pendant 12 ans, sans manquer une année. Elle balayait tous les matins ce qu'elle disait être sa dernière demeure. Grande Tida avait une mémoire de l'éternité, la durée réelle. Une mémoire pour l'exil, une mémoire pour l'oubli. Et que serait-on en définitive sans ses blessures, sans ses cris, sans ses maladies, sans ses fantômes, sans ses manques, sans ses orages, sans ses exils, sans ses volcans, sans ses razzias, sans toutes ces morts qui ouvrent avec fracas en nous de grandes fenêtres et qui nous rappellent la certitude du bleu des mer et la douceur des ciels d'été. L'exil est enfin la dignité des humbles. comme une romance sans façon, un chemin sans avenir, puisqu'il n'y a d'avenir que le chemin. Comme une mémoire sans miroir, une mémoire pour pleurer nos morts, une mémoire pour danser nos morts, une mémoire pour manger nos morts, une bac sur tous les fleuves du monde, un temps dans les temps de la fable. »